Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Alors, il est grand temps de faire connaissance avec notre invité. En réalité, moi, je le connais déjà car il est déjà venu à notre rencontre à Nîmes pour un forum du livre Péplum. J'en parlerai peut-être tout à l'heure lorsque j'évoquerai le livre pour lequel il était venu. Mais d'abord, je donne son nom et nous allons le présenter après l'avoir salué. Bonjour, Mehdi Ligné.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors donc, nous on se connaît d'abord parce que j'avais lu vos ouvrages. Vous n'avez pas écrit loin s'en faut que sur l'Antiquité, mais pas mal quand même. Et donc on s'était connus à l'occasion d'un forum du livre Péplum où dans un livre, vous avriez croisé la dimension Antiquité et la science-fiction, ce qui était, une ouverture vraiment étonnante et intéressante.
Oui, donc, en fait, c'est un livre qui s'appelle Semper Lupa, voilà, c'est ça.
Voilà, alors, donc on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans les parutions et vous nous direz s'ils sont toujours faciles à trouver, ces ouvrages, concernant l'Antiquité. Mais bien sûr, vous avez écrit énormément de choses, car en fait, vous êtes un historien, n'est-ce pas ?
Oui, je suis enseignant d'histoire-géographie en lycée. Voilà, donc c'est ma formation, on va dire, première.
Et alors, vous avez une deuxième particularité que j'avais déjà notée. Vous avez enseigné le français à l'étranger. Vous aimez apparemment beaucoup les voyages. Voyages dans le temps, on va le voir, mais voyages aussi géographiques.
Oui, tout à fait. J'ai enseigné en Russie, en Chine et en Finlande. Et en tant que professeur aussi, j'emmène mes élèves pas mal se balader en Europe, notamment. Voilà.
Alors, par exemple, dernier voyage... Alors, c'est des élèves de lycée que vous avez.
Oui, des secondes euros.
Des secondes euros. Et alors, quelle langue étudie-t-il en euros ?
Eh bien, moi, je leur fais les cours d'histoire géo en anglais.
Voilà. D'accord. Donc, vous allez plutôt dans des pays anglophones et le dernier... Non ?
Ça dépend, puisqu'en fait, tout le monde parle anglais, donc c'est beaucoup moins stressant pour un élève de seconde de parler anglais, par exemple, avec un Polonais ou un Hongrois. Ils sont dans la même situation, donc on fait des échanges avec beaucoup de pays de l'Est. Là, on était en Belgique, Pays-Bas cette année, voilà, donc c'est assez varié.
Donc depuis 2003, si mes renseignements sont bons, vous êtes enseignant de lettres-histoire à Poitiers, c'est ça où vous habitez ?
Exactement, tout à fait.
Et alors, pour être encore plus indiscrète, je signale, parce que c'est un hasard amusant, que vous fêtez vos 50 ans. Vous êtes né en 1974, nous sommes en 2024, donc 50 ans.
Ben oui, c'est ça, un demi-siècle, ça passe.
Ça passe, et c'est peut-être ça qui a été le déclic pour se retourner vers les western spaghetti qui ont quelques rapports, nous le verrons, avec le péplum. Alors, si je regarde un petit peu les parutions qui m'ont intéressée sur l'Antiquité, il y avait d'abord, en 2015, si je ne m'abuse, Dimension Antiquité, aux éditions Rivière Blanche.
Oui, c'est ça, c'est une anthologie donc, où je regroupais une vingtaine d'auteurs français mais aussi étrangers autour de l'Antiquité. Et chaque auteur écrivait une nouvelle de science-fiction ou de fantastique dans ce qu'on appelle les genres de l'imaginaire, matinée d'Antiquité, voilà. Donc c'était cet ouvrage Dimension Antiquité.
Voilà, et d'ailleurs c'était pour cet ouvrage-là la première fois que je vous ai rencontré. Et je pense qu'il a eu pas mal de succès, ce livre.
Ouais, c'est une série qui a pas trop mal marché, puisqu'on a fait Dimension Préhistoire, Dimension Antiquité, Moyen-Âge, Temps Moderne et Époque Contemporaine. Toujours donc matinée avec ces genres de l'imaginaire. Donc c'était assez intéressant d'explorer les différentes périodes de l'histoire.
Et alors, un auditeur désireux d'acquérir le livre, le pourrait-il toujours ?
Oui, il faut aller sur le site de Rivière Blanche, rivièreblanche.com, je crois, c'est ça, et on peut le commander, il n'y a pas de problème.
Alors, deuxième ouvrage que j'avais envie de, entre guillemets, ressusciter, Semper Lupa. Alors, oui. De quoi était-il question avec ce beau titre ?
Semper Lupa, c'est ce qu'on appelle un fix-up, c'est-à-dire un ensemble de nouvelles qui se passent dans un même monde. Et ce monde, c'est un monde uchronique, où j'imagine que l'Empire romain continue d'exister éternellement, quoi. Donc, avec l'exploration de la planète, la découverte de l'Amérique, mais aussi la Lune, le système solaire, etc. Donc, il y a une quinzaine de nouvelles comme ça qui sont à différentes époques. de cet univers, on va dire, alternatif. Voilà.
Oui, alors j'en extrais un hymne qui semblera familier à ceux qui aiment l'Antiquité et les textes littéraires de l'Antiquité. « Déesse, chante l'histoire éternelle de la ville, celle qui rayonna sur le monde, raconte sa glorieuse destinée à travers les âges, comment elle conquit la terre et comment ses Césars régnèrent suivant la volonté des dieux. » Et la muse répondit « Que ton souhait soit exaucé. » Donc, effectivement, nous sommes dans cette uchronie que vous étiez en train de définir. Et puis, alors peut-être que j'en oublie, mais vous me corrigerez si c'est le cas, je ne cite pas tous les autres ouvrages, car vous avez beaucoup écrit par ailleurs. Là, en 2024, voici un essai paru chez L'Armaton. Et cet essai pourrait sembler étrange pour une émission comme Antiquissimo, on va découvrir que non. Le titre en est « Western Spaghetti ». Et histoire. Alors, pourquoi vous tournez vers le western? Je crois savoir tout de même que vous avez publié aussi là-dessus pas mal, un cinéphile averti.
Oui, en fait, moi, j'ai une culture populaire. J'ai été élevé avec le cinéma, à la télévision surtout, donc la dernière séance notamment. Et donc, le western a toujours fait partie de mes genres préférés avec la science-fiction. Donc voilà pourquoi j'avais envie d'écrire là-dessus. Alors j'ai fait une anthologie sur le Weird Western, ce qu'on appelle le Weird Western, c'est le western là encore matinée de science-fiction, de fantastique, etc. Et puis de façon plus sérieuse, j'avais envie d'écrire sur le Western Spaghetti, qui est la forme de western qui m'intéresse le plus, on expliquera peut-être plus tard pourquoi. Et donc de le croiser avec l'histoire, qui est ma matière, on va dire, de spécialité. Et donc de faire ce livre voilà, qui explique l'originalité vraiment intéressante du Western Spaghetti.
Alors nous allons marquer une toute petite pause musicale, petit clin d'œil justement au Western Spaghetti avec la musique, un tout petit extrait, une petite minute, et pour quelques dollars de plus, on se retrouve après.
Fais assez attention, le vieux.
Alors, petit clin d'œil au western, peut-être que les auditeurs d'Antiquissimo seront un petit peu surpris, mais pas tant que ça, puisque le lien est assez facile à trouver. Donc, vous avez dit que vous étiez un passionné de western, et en particulier de western, celui qu'on appelle familièrement le spaghetti. Les appellations sont assez amusantes, et d'ailleurs, on parlera peut-être tout à l'heure de la manière dont les Anglais désignent le péplum, qui n'est pas du tout notre manière à nous. Mais vous avez choisi dans votre livre, alors il faut quand même que je précise que là, moi, je me suis rendue dans cet ouvrage qui est beaucoup plus long que ce que nous allons évoquer aujourd'hui et qui est abondamment nourri de photos. Il y a beaucoup, beaucoup de photos et ça, c'est très agréable. Mais moi, je me suis propulsée, il y a aussi des photos, dans la partie du livre qui s'appelle « Les influences antiques et médiévales ». Alors, vous vous doutez pourquoi. Et le metteur en scène qui va nous intéresser tout de suite, c'est Sergio Leone. Puisque vous rappelez effectivement que Sergio Leone est à la croisée des deux chemins, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça en fait. Sergio Leone, c'est celui qui est un peu considéré comme le père du Western Spaghetti, mais le Western Spaghetti existait quand même avant. C'est quand même lui qui l'a propulsé sur le devant de la scène hein, avec sa trilogie du dollar. Et donc il est considéré comme, on va dire, le père tout puissant du genre. Et en effet, il y a beaucoup d'influences antiques. On va peut-être en parler.
Oui. Alors on va détailler d'une manière assez précise, je pense. Mais Sergio Leone, il est à la fois un réalisateur de péplum, Il faut quand même penser que la course de chars de Ben-Hur, il en est quelque part responsable. Il est donc celui qui a fait des péplums et celui qui a donné ses lettres de noblesse à un genre qu'on a un peu familièrement appelé donc le western spaghetti. Son premier film à Sergio Leone, vous le rappelez dans votre livre à la page 141, c'est Le Colosse de Rhodes. Et vous le faites parler, donc ça c'est vraiment aussi passionnant. Vous utilisez beaucoup ces interviews. Et il disait « Tandis que je mettais en scène des courses de chars, des batailles de trirèmes et des explosions sur des galères, je rêvais silencieusement du Nevada et du Nouveau-Mexique. » Il explique ensuite que c'est l'effondrement dans les années 60 du péplum. Les conditions économiques qui empêchaient de faire aussi des films en Italie. Et finalement, tout ce brave monde s'est dirigé vers l'industrie cinématographique qui est passée du péplum au western.
Oui, c'est ça. Ça a été une transition tout en douceur, en fait, puisque en 62, il y a la Titanus, qui est une grande maison de production italienne qui fait faillite. Et donc, c'est la fin des péplums. Et en fait, à cause du succès de la série Winnetou en Allemagne, oui, les Italiens vont se dire que là, il y a peut-être un filon à exploiter. Et donc, ils vont se tourner vers le western. Et d'ailleurs, c'est les mêmes acteurs, les mêmes
réalisateurs. Oui, c'est ça qui est amusant, voilà, oui.
Ouais. Et alors, ils vont passer comme ça d'un genre à un autre, oui.
Et là, vous expliquez que les Anglais donc, appellent le péplum, on ne va pas rappeler ici parce qu'on l'a déjà fait des tonnes de fois, d'où vient le mot péplum et qui en a eu l'idée, hein, des cinéphiles français. Et vous dites qu'en anglais, on dit « sword and sandals films », c'est-à-dire qu'on pense plutôt aux attributs des héros de péplum, l'épée et les chaussures, les fameuses chaussures romaines. Et là, on va donc passer à d'autres armes, les Colts et les Winchester. Et puis, d'autres manières, effectivement, de se vêtir. Là, on pourrait parler du poncho. Hein, dans les western spaghetti, il y a toujours un héros qui se balade en poncho.
Oui, c'est ça. Bah, le plus connu, bien sûr, c'est Clint Eastwood dans la trilogie du dollar de Sergio Leone. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce poncho, il a des motifs un peu à la grecque. Et il lui est donné à Clint Eastwood par un soldat confédéré dans la dernière mouture du film... Le bon lapin, c'est le truand. Donc, en fait, c'est le dernier film, mais ça se passe avant les deux autres. Donc, c'est une espèce de boucle qui est bouclée comme ça. Voilà.
Oui, en même temps, on y reviendra, mais effectivement, il y a quelques symboles dans ce poncho et ses motifs grecs.
Oui, tout à fait. Voilà, toujours pour marquer ses racines méditerranéennes et antiquisantes, quoi. Exactement.
Alors, oui, justement, alors après, Sergio Leone évoque, et vous aussi, des acteurs emblématiques, comme celui que j'aime beaucoup, Giuliano Gemma, qui est mort il y a peu de temps, dans le film Les Titans, mais pas que. Et vous évoquez donc tous ces acteurs qui ont fait le succès des western spaghetti ensuite. Alors, pardon, je vous laisse parler, excusez-moi.
Non, mais je plus sois totalement. C'est des gens qui ont fait des péplums, puis après, tout naturellement, ont fait des westerns. Gemma a fait Les Titans, puis après, il a fait Les Ringo, par exemple, qui était un grand succès du western spaghetti. Ouais.
Alors, ce qui est, à mon sens, vraiment passionnant dans votre livre, c'est toute l'analyse que vous faites des lieux dans les fameux western spaghetti. Lieux qui ont beaucoup à voir avec les lieux antiques. Parce qu'en fait, et Sergio Leone le rappellera sans arrêt, vous le disiez à l'instant, ces racines méditerranéennes qui sont à la croisée de ce genre, des deux genres, sont extrêmement importantes. Et les lieux de tournage, soit l'Italie avec Cinecittà, mais aussi beaucoup l'Espagne, renvoient à ces sources méditerranéennes.
Oui, la majorité des western spaghetti sont tournés dans une région qu'on appelle le désert de Tabernas. Donc, c'est dans le sud-est de l'Espagne, pas loin de Almeria. Voilà, donc dans des paysages qui rappellent le Colorado, le Texas, le Nouveau-Mexique, etc. Donc, on avait des équipes italiennes qui tournaient en Espagne avec des acteurs qui pouvaient être français, allemands, italiens, espagnols. Donc, c'était vraiment souvent des coproductions européennes. Voilà.
Alors, vous égrenez donc des aspects de tous ces western spaghetti qui renvoient à l'Antiquité, et en particulier donc dans les lieux, les arènes. Et vous expliquez combien ces lieux circulaires que sont les arènes ont inspiré et nourri le western spaghetti.
Ouais, c'est surtout Sergio Leone qui y attache une importance extrême, puisque pour lui, c'est vraiment le moment de vérité, le moment du face-à-face avec la mort. Donc, il enferme toujours dans un cercle. On le voit dans plusieurs de ses films. Donc, et pour quelques dollars de plus, le duel final se déroule dans une aire de battage, donc qui est circulaire. Et puis surtout, le Bon, la Brute et le Truand, avec le fameux cimetière de Sad Hill, près de Burgos, qu'on peut toujours visiter aujourd'hui d'ailleurs. Donc, qui est une sorte de colisée dans un vallon, comme ça, un endroit assez magique, où il fait son truello, donc un duel à trois, entre le Bon, la Brute et le Truand. Donc, voilà, c'est ce rappeur de la reine antique est très très récurrent. Là, j'ai cité Léon, mais on aurait pu citer d'autres films, notamment un film assez incroyable qui s'appelle Les Quatre Desperados, qui est un film de Julio Bush, qui est un réalisateur espagnol, dont la dernière scène se passe dans une arène, une Plaza de Toros, en fait, en Extrémadure. Une scène vraiment incroyable, une des meilleures du Western Spaghetti.
Alors, justement, vous évoquez aussi une variante de ces arènes, c'est-à-dire, nous, on pense arène, l'amphithéâtre romain, mais les arènes avec la corrida et le taureau et les mises à mort, ben oui, d'un monument à l'autre, il y a la même évocation de la mort et du destin enfermé dans un lieu circulaire.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est cet héritage antique, mais aussi plus proche de nous, donc la corrida. Dans plusieurs films, on a des scènes de corrida, notamment dans El Mercenario, où Franco Nero participe à une fête comme ça dans une corrida. Et puis il y a aussi un film de Corbucci qui s'appelle « Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ?» qui nous rappelle les fêtes de San Fermín en Espagne, à Pamploune, où on lâche les taureaux dans la rue. Et là, il y a cette scène-là aussi dans un Western Spaghetti. Donc beaucoup de liens voilà, entre l'Europe finalement et le Western.
Alors c'est pour ça que sur les images du podcast, j'ai évidemment mis la couverture magnifique, mais j'en reparlerai tout à l'heure dans un tout petit instant, de votre livre qui est paru, je ne l'ai pas dit, mais il vient de sortir, hein, votre livre.
Oui, c'est ça, chez l'Harmattan.
Donc on peut très facilement se le procurer et le lire vraiment facilement aussi, parce que c'est passionnant. Et de bout en bout, on découvre des choses auxquelles on n'avait pas pensé en regardant ces films. Donc, les lieux, c'est les arènes. Et puis, du coup, on a parlé de la mort, du destin. Il y a aussi beaucoup de références religieuses dans ces films qui aiment emprunter à l'ambiance un peu crépusculaire.
Oui, alors ces Western Spaghetti sont faits par des Italiens pour la plupart du temps, donc où l'influence du catholicisme est très très forte. Donc, on a énormément de références religieuses, bibliques, que ce soit dans les titres, que ce soit dans les scènes. On a énormément de scènes de crucifixion, par exemple. Évidemment, en plein western, ça peut paraître bizarre, mais dans les Western Spaghetti, pas du tout. Nombre de héros ont connu ce sort, voilà, très christique, et qui nous rappelle donc toujours l'Antiquité, les racines européennes.
Oui, et d'ailleurs, il y a aussi des scènes assez terribles dans pas mal de westerns où tout un village se réfugie dans une église, par exemple, et qu'on va mettre le feu à cette église. Enfin, oui, effectivement, ce sont des lieux de vie spirituelle et de mort aussi.
Oui, tout à fait. Et puis là, vous touchez du doigt une autre influence aussi, c'est l'histoire plus contemporaine, puisque dans nombre de films aussi, on a des influences qui viennent de la Seconde Guerre mondiale, qui viennent des guerres napoléoniennes, etc., que ça, j'explique dans une autre partie. Donc en fait, tout se mélange, là, le western, l'antiquité, mais aussi l'histoire plus contemporaine, qui pourrait rappeler la Seconde Guerre mondiale dans le cadre dont vous parlez.
Oui,
là.
Voilà, c'est la troisième partie de votre livre, hein, ça. Hein.
C'est
donc,
ça,
voilà, encore une fois, moi, je me suis focalisée sur la partie dédiée à l'Antiquité, mais la première et la troisième sont tout aussi passionnantes. Alors, on va marquer une petite pause musicale avec cette fois-ci. Alors, tout à l'heure, c'était justement la musique de quelques dollars de plus avec ceux qui ont vu le film et qui l'ont adoré, la scène du duel ou du triel, je ne sais pas comment il faut dire, qu'on imagine fort bien en écoutant cette musique. Et là, cette fois-ci, retour à l'Antiquité avec le Colosse de Rhodes. À tout de suite. We'll be right back. Alors, Antiquissimo, dédié à Médiligné, Western Spaghetti et Histoire, tel est l'essai que nous propose cet historien, justement, avec des parallèles tout à fait convaincants entre le Western Spaghetti et le péplum que nous adorons. Alors, nous étions focalisés sur les lieux et je vais continuer avec ça, même si on n'aura évidemment pas le temps, mais ce n'est pas le but d'égrener tout ce qui est dit dans ce livre. Dans les lieux, il y a aussi une partie passionnante où vous montrez que dans les westerns, on aime les mondes infernaux. Et les westerns spaghetti regorgent de souterrains, de mines, de galeries, de catacombes.
Oui, c'est ça, exactement. On a beaucoup de duels qui se déroulent dans des lieux comme ça, souterrains, avec des balles qui résonnent, qui les tirent, qui fusent. Et ça rappelle là aussi les Tartares antiques, les mondes souterrains, les mondes infernaux. On a beaucoup de liens comme ça, notamment à un film qui s'appelle avec Django, Ça va saigner. Il y a un duel dans une mine de soufre avec donc les couleurs jaunes, etc. Donc on a pas mal de choses comme ça, oui, en effet.
Oui, et vous évoquez Seth Winchester pour un massacre aussi.
Oui, alors il y a plein d'exemples, hein. Il y a pas mal d'exemples sur ces mondes infernaux. On pourrait citer aussi Le vent apporta la violence avec Klaus Kinski, qui est une petite merveille qui se passe sur une nuit. Et un héros va utiliser ses catacombes, ses cimetières souterrains indiens pour assouvir sa vengeance. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça.
Alors, on a au passage, en entendant tous ces exemples, parce que c'est ça aussi l'intérêt du livre, c'est extrêmement précis. Et j'ai dit qu'il y avait des photos, mais il y a beaucoup de références au film. Donc ça, c'est précieux. Effectivement, beaucoup d'exemples de scènes qui se passent dans l'obscurité. Vous dites, par exemple, au milieu des wagonnets, ça, c'est dans le film El Rojo. Anthony qui cherche un trésor dans une grotte, dans Pendez-le par les pieds, etc. etc. Donc, les mondes infernaux se retrouvent bien évidemment ici.
Oui, et je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas avec Django, ça va saigner, c'est avec Django, la mort est là. Voilà, c'est presque le même, mais donc c'était celui-ci que je voulais parler.
C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est dans notre méconnaissance de ce genre, on pense qu'il y a peu de westerns, mais il y en a infiniment. Je ne sais pas si vous avez fait le compte des westerns spaghetti.
Il y en a plus de 500, à peu près, 500-600. On n'a pas de chiffre précis, mais en gros, c'est ça, quoi. Mais c'est beaucoup moins que le western américain.
Oui, bien sûr, mais enfin, c'est quand même assez énorme parce que nous, on connaît les ceux qui sont cultissimes, mais il y en a énormément et avec des titres savoureux parce que moi, ce que j'aime aussi là, dans ces films, c'est un mélange d'horreur, de violence, mais c'est extrêmement violent, et aussi d'humour et de burlesque.
Oui, c'est ça, c'est une des composantes du Western Spaghetti, le côté baroque et puis le côté un peu comique. Ça fait une espèce de mélange un peu détonnant comme ça et qui vraiment se démarque du modèle américain. Ça, c'est sûr.
Alors, je voudrais parler un tout petit peu de la couverture du livre que je trouve fabuleuse. Et d'ailleurs, dans les remerciements du début, vous en parlez de cette couverture. Hein. Je ne sais pas qui l'a réalisée, mais c'est un montage assez extraordinaire puisqu'on y voit un personnage qui incarne forcément en premier plan le western. Il est de dos, c'est un cavalier et il n'y a pas de problème. On le voit bien, il sort d'un western et à gauche, la géographie le dit aussi, c'est les Grands Canyons visiblement. Et alors à droite, ce qui est fabuleux, c'est qu'on croit reconnaître, et c'est ça, la cité de Petra.
Exactement, ouais. C'est pour montrer justement l'influence antique, l'influence, on va dire, hors histoire nord-américaine qu'il y a sur le Western Spaghetti. Donc le personnage avec le poncho, là, bien sûr, c'est Clint Eastwood, de la trilogie du dollar. Et on le voit, donc, il côtoie cette antiquité incarnée par la cité de Petra. C'est une couverture qui est signée de Léo Gontier, donc, qui nous a fait cette magnifique couverture, et je le remercie encore pour ça.
Alors oui, elle est magnifique, aussi bien dans la composition que l'interprétation et les couleurs aussi, vraiment somptueuses. Donc on est bien dans la thématique que vous vouliez développer et ce temple de Petra évoque aussi les ruines des églises et de tout ce qui se passe, on en a parlé en guise de référence religieuse dans ces péplums. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de violence, mais oui, la violence, elle est là au rendez-vous. avec les supplices à l'antique, hein, parce que j'ai bien sûr, vous le savez, une passion pour l'antiquité, mais pas forcément pour les supplices qui sont pratiqués. Et bien dans le western, on se régale de reprendre les mêmes.
Ben oui, c'est ce côté un peu baroque, un peu sanguinaire, hein, du western spaghetti, puisque on va expérimenter des mises à mort qui sortent tout droit de l'Antiquité. Par exemple, on a l'écartèlement, hein, dans un western spaghetti qui s'appelle donc avec Django la Morella, hein, dans celui dont je parlais tout à l'heure. On va avoir une scène d'écartèlement, donc ça c'est pas trop non plus courant dans le western. Bien sûr le garrot, ça c'est plus contemporain, mais on a aussi l'or qui coule dans la bouche
de
certains héros. Donc ça rappelle évidemment le martyr de Crassus après la défaite de Car contre les Parthes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a dans un des westerns qui s'appelle $1 entre les dents, on va glisser une pièce d'or dans la bouche d'un défunt. Donc ça aussi, ça rappelle
le passage
chez les morts pour les Romains, etc.
Voilà,
etc.
Le vol à Charon, oui.
Exactement. Voilà. Et puis, bien sûr, les crucifixions dont on a déjà parlé, qui sont très, très, très courantes. Voilà.
Alors, on peut citer peut-être le titre que je trouve à la fois horrible et amusant, de $1 entre les dents, quoi, parce que c'est la traduction western du passage de Charon. C'est hallucinant. Alors, vous évoquez aussi, et c'est pas mon propos d'aujourd'hui, mais c'est tout aussi intéressant, les tournois genre époque médiévale, les références chrétiennes dont on a parlé tout à l'heure abondamment. Et alors, je n'ai pas dit aussi que dans ce livre, il y a des encadrés avec quelques analyses de films, et j'essaierai, si j'ai le temps, de terminer par un que je n'ai pas vu et que sans doute je ne verrai jamais parce qu'il est introuvable, mais dont vous faites l'analyse rapidement dans un encadré final. Alors, très rapidement, parce qu'il me reste une minute, je crois, les mythes de l'an. Alors, on n'a pas le temps de les dérouler tous, mais donnez-en quelques-uns d'exemples de mythes de l'Antiquité qui sont revisités par le western spaghetti.
Voilà, il y a plusieurs westerns en fait qui revisitent certains mythes antiques très connus. Je vais donner un exemple, c'est celui le retour de Ringo, qui est pour moi une des perles du western à l'italiana, avec Giuliano Gemma justement. C'est un film de Duccio Tessari qui est sorti en 65 et qui revisite le retour d'Ulysse à Ithaque par le western. Donc c'est un capitaine de l'armée confédérée qui revient chez lui, enfin de l'armée de l'Union, pardon, qui revient chez lui après des années d'absence. Et évidemment, sa femme a forte affaire avec des gens qui ont abusé de l'absence de son mari. Et, les gens ne le reconnaissent pas, donc il est obligé de louvoyer comme ça. Et il va finalement accomplir sa vengeance, mais vraiment, on est calqué sur l'Odyssée à fond, ouais, bien sûr, puisque les personnages ont des équivalents dans le western, etc.
Et d'ailleurs, Sergio Leone dit sa passion pour tous ces mythes de l'Antiquité, et vous l'évoquez à la page 179 de votre livre. Alors, il y a les géants, les cyclopes, l'Orestie, Oedipe, le mythe de Circé. Je n'ai pas le temps de les égriner. Il faut qu'on se dise au revoir. Le film que je ne verrai jamais, c'est Trois pistolets contre César, tourné en Algérie. Et je reste là-dessus en vous remerciant beaucoup, beaucoup, Mehdi Ligné. Et j'incite tout le monde à lire votre livre. Au revoir.
Merci, au revoir.